Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et on va poursuivre un petit peu, on parlait de Donald Trump à l'instant, on va poursuivre un peu sur évidemment les conséquences de son arrivée. Un éclairage venu d'Amérique latine ce matin. On y avait misé sur l'ouverture du commerce mondial. Depuis l'élection de Trump, justement, on doit déchanter. Comment se traduit cette déception?
Eh bien, mes partenaires du site WordCrunch, qui traduisent en anglais la presse mondiale, ont mis en ligne un texte passionnant titré « En tant qu'idéologie, la mondialisation est morte et enterrée ». Il a été publié dans plusieurs revues sud-américaines et son auteur n'est autre que le vice-président bolivien Alvaro García Linera. Linera a été élu vice-président en 2005 en tant que leader du Movimiento al Socialismo, une formation marxiste associée au président indigéniste Evo Morales. Il a été réélu en 2009 et voici ce qu'il écrit. La course folle vers un monde sans frontières et un rétrécissement implacable de l'État-nation au nom de la libération du commerce, eh bien cette époque arrive à son terme. Le monde entier a vécu avec, je cite encore, la conviction quasi-religieuse que toutes les sociétés de la planète étaient condamnées à s'unir au sein d'une économie unique, d'une culture unique. Cette croyance s'est effondrée. Fin de citation. Et là encore, on nous dit, le signal de la fin a été donné par le Brexit et l'avènement de Donald Trump. Et lorsque vous pensez, dit-il encore, que les deux protagonistes de ce revirement historique sont les deux pays principaux qui avaient porté le projet de salut de l'humanité par la mondialisation, nous nous retrouvons orphelins d'un rêve qui aura duré un siècle. Marx, poursuit Linera, a été le premier à comprendre la nature nécessairement expansionniste du capitalisme. Si durant ces 350 premières années, ce système a vécu confiné à l'intérieur des limites des États, il était destiné à s'étendre et à acquérir des dimensions continentales jusqu'à atteindre le seuil mondial plus récemment, car l'effondrement de l'URSS a marqué le stade ultime du développement du capitalisme auquel plus rien ne semblait pouvoir s'opposer. Ce fut l'époque où fut proclamée, souvenons-nous, la fin de l'histoire, rappelle-t-il. La vieille gauche elle-même a dû faire avec, trouver une niche dans le discours du capitalisme universel. Elle a dû renoncer à ses idées d'autrefois, comme le socialisme d'État, le parti unique, la planification de la production sous direction de l'État. Comment s'opposer à ce qui était présenté comme un nouvel universalisme, comme une direction prise par l'histoire elle-même. Face à ce destin présenté donc comme inéluctable, les peuples ont pris le parti du conformisme et de la passivité, ce sont les deux mots qu'il emploie, et maintenant que cette construction s'écroule, reconnaît le vice-président bolivien, nous nous retrouvons non seulement orphelins de nos rêves, mais en panne d'alternatives crédibles. Je le cite encore car cet homme a le sens de la formule, Trump n'est pas le bourreau qui exécute le libre marché planétaire, c'est le syndic de faillite envoyé pour en liquider les illusions. Nous assistons à la disparition de la plus grande escroquerie des récents siècles. Alors toujours sur WordCrunch, Roy Greenberg relève les étranges convergences intellectuelles entre ce qui reste de l'ancien altermondialisme dans la version Alvaro García Linera et le discours de Trump lui-même. Le refus de la mondialisation commerciale, l'insistance sur les protections qu'offraient les États-nations, le refus de la monoculture universelle et de la prétention de l'Occident à imposer ses normes et ses modes de vie à la planète. Alors Trump serait-il la version ultra-droitière du vieil altermondialisme ?
Ultra-droitière du vieil altermondialisme, comme vous y allez. En tout cas, cette montée du protectionnisme risque-t-elle de provoquer, Brice, des guerres commerciales ? Qu'en pense-t-on, en tout cas, en Amérique latine, où vous nous emmenez ce matin ?
Oui, le Brésil, par exemple. Le Brésil se demande s'il ne devrait pas suivre l'exemple de Trump en matière de lutte contre les délocalisations et se lancer à son tour dans le protectionnisme. Dans le journal Folha de São Paulo, toujours sur le site de WordCrunch, on lit que cette question hante aussi les Brésiliens. Même le Washington Post, hostile à Trump, écrit ce journal, reconnaît qu'avant même d'avoir pris ses fonctions, le président américain a déjà sauvé 3500 jobs américains dans l'automobile en menaçant les constructeurs tentés par les délocalisations. Alors, pourquoi ne pas appliquer les mêmes recettes au Brésil, qui voit les emplois suivre les délocalisations de ses entreprises vers des pays voisins? 124 compagnies brésiliennes se sont ainsi récemment établies au Paraguay, un pays qui fait du dumping fiscal. Il offre une quasi-suppression de l'impôt sur les sociétés, 1% à celles qui déménagent entièrement leur production chez lui. Mais l'auteur de l'article, Clovis Rossi, répond par la négative. Primo, les emplois sauvés par Trump constituent de la pure propagande, c'est de la poudre aux yeux. Que pèsent les 3500 jobs sauvés dans l'automobile dans un pays qui a créé 156 000 emplois au cours du seul mois de décembre ? alors qu'Obama était encore président. En outre, les délocalisations sont un mythe. En moyenne, un produit importé aux États-Unis depuis le Mexique comporte 40% de composants conçus et fabriqués aux États-Unis. En réalité, la chaîne de valeur, comme on dit, s'étend sur plusieurs pays en fonction des avantages respectifs offerts à chaque échelon. Y renoncer pénaliserait fortement les consommateurs en matière de prix. Trump, poursuit le journal brésilien, n'est ni protectionniste ni libéral. Il n'a aucune idéologie et il agira au cas par cas. En outre, il peut utiliser, lui, l'énorme puissance de son pays pour négocier des accords commerciaux bilatéraux favorables aux États-Unis et ce ne serait pas le cas du Brésil.